Beaucoup de gens craignent de voyager avec le coronavirus. Marie-Julie Gagnon est auteure, chroniqueuse et blogueuse voyage. Elle est en Asie depuis quelques jours, malgré donc ce risque de propagation de ce virus dont on connaît finalement moins de choses par rapport au virus habituel de la grippe. C'est ce que vient de nous confirmer le docteur Drouin. Merci de nous parler, Marie-Julie Gagnon. Marie-Julie Gagnon, tu es en Thaïlande, là, à Bangkok, c'est bien ça?
Oui, je suis arrivée aujourd'hui à Bangkok, oui.
Bon, et dis-moi, là, parle-moi un petit peu de ton voyage, parce que on veut savoir ce qui se passe en Asie en ce moment. Est-ce qu'il règne cette espèce de panique qu'on semble sentir un peu partout, entre autres en Italie, là, c'est clair. En Asie, ça a l'air de quoi, ouais, en ce moment?
Ben, écoute, ce qui est particulier, moi, je suis partie, c'était encore assez dans les débuts. Je suis partie à la mi-février, le 12 février, pour être plus exact. Et j'ai transité par Hong Kong. Donc, déjà, en arrivant à Hong Kong, on voit tout de suite une différence. Mon vol Toronto-Hong Kong, les gens étaient masqués une fois rendus sur place. Plus que dans l'avion, quand même, parce que dans l'avion, oui, les agents de bord de Cathay Pacific étaient masqués, mais pas tous. Puis une fois à l'aéroport, on commençait à en voir un petit peu plus, évidemment. Puis après ça, bon, je me suis déplacée, je suis allée au Sri Lanka pendant 11 jours. Et là, sur place, j'ai vraiment rien senti de particulier. On en parlait un peu, mais je t'avoue que c'était beaucoup plus stressant pour moi avant de partir, de consulter l'actualité, parce qu'évidemment, on fait le bilan, on fait le décompte de tout ce qui se passe, des cas qui sont répertoriés partout. Donc ça, c'est beaucoup plus stressant que quand on est sur place puis qu'on le vit. Donc le Sri Lanka, ça s'est super bien passé. Il y avait vraiment, à l'aéroport, il y avait une poubelle là où on pouvait jeter les masques jetables, mais c'est à peu près tout ce qu'il y avait. C'est après ça où je me suis rendue à Singapour. C'est là, à Singapour, en fait, que j'ai vraiment vu une méga différence. Singapour, déjà, l'hôtel où je logeais, on prenait ma température à chaque fois que j'entrais dans l'hôtel. Donc, ça peut être 3-4 fois dans la journée, ça dépend. Mais tout ça est fait dans la bonne humeur. Ça, il faut le préciser, hein, parce que oui, il y a des mesures qui sont prises, mais moi, je trouve ça rassurant de voir que, justement, on prend la situation au sérieux. Puis, moi, je me sentais totalement bien et totalement à l'aise de naviguer là-dedans. Et l'autre chose, c'est que tout est calme, tout est désert. Il y a quand même des avantages, il faut le dire aussi, là,
mais ouais,
tout ça quand on voyage. Évidemment, il ne faut pas prendre ça à la légère, puis je ne recommanderais pas aux gens de se booker un voyage demain matin sans s'informer et sans surtout parler à son assureur et tout ça, là. Mais quand même, il y a quand même certains avantages, tu sais, à tout ça, là.
Donc, par exemple, tu fais pas de file d'attente dans les endroits touristiques. Tu peux avoir accès aussi à des surclassements, d'après ce que j'ai pu lire dans un papier que tu as écrit, justement, je pense que
oui,
c'était hier ou avant-hier.
Oui, ben j'ai résumé sur avenue.ca, en fait, dans une chronique, parce qu'il y a vraiment plusieurs aspects. Tu sais, moi, je me suis retrouvée dans un hôtel 4,5 étoiles que j'ai payé le tiers du prix. Mm. Tu sais, je veux dire, ça fait partie des choses que je pense qui sont intéressantes. Puis en plus de ça, ils m'ont surclassé parce qu'il n'y avait personne dans l'hôtel, tu sais. Donc, ça fait partie des bons côtés. L'autre chose aussi qui était assez surprenante, c'est de voir à quel point les rues étaient calmes. Je me suis rendue dans un secteur super touristique de Singapour, Sentosa Island, et il n'y avait personne. Mais je marchais, puis je disais, voyons, il y a vraiment pas un chat. Puis j'ai interpellé des gens sur la rue. J'aurais dit, est-ce que c'est toujours comme ça? Puis c'était un couple qui vit là-bas depuis un petit bout de temps. Puis ils m'ont dit, non, c'est vraiment parce que les Chinois viennent plus, les Indiens viennent beaucoup moins. Puis on recommande aussi aux gens de rester beaucoup à la maison, d'éviter les foules. Partout dans la ville, c'était placardé, les mesures de sécurité de base à prendre. Bon, il y a évidemment se laver les mains, mais il y a aussi éviter les foules. Il y a éviter les risques inutiles, finalement, de façon très large et très, très générale. Les contacts avec les animaux aussi, bref, tout ça est martelé vraiment. Surtout à Singapour, c'est frappant. Là, déjà, c'est un endroit où tout est réglementé. Il y a énormément. Tu reçois une amende si tu jettes une gomme par terre, par exemple. T'as pas le droit de manger de gomme, tu sais.
Ouais.
Donc, déjà, ce niveau-là, c'est déjà extrême. Mais donc, on voit vraiment qu'il y a un souci de faire en sorte que tout le monde, justement, évite de
ouais,
prendre des risques.
Depuis mercredi, tu étais à bord d'un train qui est un de mes rêves, parce que je suis une fan d'Agatha Christie, parce que l'Orient Express,
oui,
c'est un train mythique, ma chanceuse.
Ouais.
Un train de la compagnie Belmont, qui est la compagnie de l'Orient Express, puis ça, c'est dans ma bucket list. Là, je me promets de faire ça un jour. Toi, tu y étais ces derniers jours. Un train qui, en général,
ouais,
il faut booker ça des mois à l'avance. C'est
ouais,
vraiment extrêmement couru.
Ouais.
Voilà. C'est un train qui n'a pas énormément de passagers. Hein. Je pense que c'est 80 à 100. À peu près?
C'est ça. Ben, en fait, selon les chiffres, j'ai validé les chiffres aujourd'hui, justement, parce que des gens à qui je posais la question un peu de façon informelle me donnaient des chiffres différents. Moi, j'ai validé aujourd'hui avec le directeur à bord pour voir c'était combien le taux d'occupation habituel. Puis, normalement, c'est autour de 60 passagers, peut-être un peu plus parfois. Mais nous, dans ce cas-ci, on était 31 passagers. Ouais. Ce qui fait qu'on a eu quand même, j'ai vraiment eu l'expérience. Là aussi, j'ai été surclassée parce qu'il y avait plus de place dans le train.
Oh mon Donc, Dieu, surclassée dans l'Orient encore. Express. Incroyable.
J'avais une meilleure cabine encore. Donc, franchement, quand je dis qu'il y a quand même certains avantages, mais encore une fois, on prend pas les choses à la légère pour autant. Les employés à bord qui travaillent dans le train, eux, ont leur température prise deux fois par jour quand même. Donc, on contrôle leur température à eux. On ne l'a pas pris à nous, les passagers. Par contre, dès que je suis entrée à la frontière en Thaïlande, parce qu'on a franchi la frontière, donc on a pris ma température. Et d'ailleurs, ironiquement, je faisais 34,6, même pas.
Mon Dieu!
J'étais en dessous.
T'avais froid?
La clim du train, ouais. Je pense, m'a légèrement engourdi. Mais tout ça pour dire que oui, dès qu'on franchit la frontière, on prend notre température aussi. Je l'ai vécu, c'est dans tous les endroits où j'ai transité. Et on nous fait remplir aussi un formulaire qui atteste qu'on n'a pas eu de symptômes de rhume, même les petits symptômes de rhume, là, qu'on n'a pas éternué dans la...
Mais moi, je comprends, Marie-Julie, je sais que je dois te laisser aller, je sais, Marie-Julie Gagnon, mais dis-moi, toi, donc, ta recommandation aux gens qui nous écoutent, je sais que tu vas me dire que c'est très personnel à chacun, puis que tu peux pas conseiller tout le monde là-dessus, mais toi, visiblement, ça t'empêche pas de voyager, là, ce fameux virus.
Ben, en fait, c'est certain que moi, je pense qu'étant un peu hypochondriaque puis lisant beaucoup trop l'actualité, je me serais probablement pas booké de voyage à cette période-ci de l'année en Asie. Mais comme tout ça était dans le collimateur depuis des mois, dans le cas de l'Orient Express, ça faisait plus qu'un an que je prévoyais ce voyage-là. Donc, j'ai choisi d'y aller quand même, puis j'avais des reportages aussi. Donc, je suis ici pour le travail d'abord. Mais moi, je pense qu'il faut s'informer adéquatement, parler à vos assureurs aussi. La compagnie d'assurance peut faire une grosse différence et valider aussi les conseils avertissements sur voyage.gc.ca. Ça peut donner un bon indicateur. Même chose pour les gens qui veulent être remboursés. Si c'est un avertissement, tu sais, il y a des niveaux à ça.
Oui, on va en parler tout de suite extrême. Après la pause. Oui.
Ouais. Avec Paul Arsenault.
Oui, effectivement, avec Paul Arsenault. Merci beaucoup, Marie-Julie.
Je pourrais tout vous dire ça.
Ben exactement. Bonne fin de voyage. Et puis, dès que tu reviens, bien sûr, ça serait le fun que tu nous tu viennes poursuivre les anecdotes de ce voyage mémorable. Marie-Julie Gagnon, vous pouvez la suivre sur sa page Facebook, bien sûr. Elle termine un voyage en Asie, malgré le coronavirus, vous voyez. Elle nous dit qu'en Asie, bon, finalement, il n'y a pas grand monde. Mais là, il y a même plus largement que ça. Beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne des destinations européennes. Il est titulaire de la chaire de tourisme Transat. Il nous parle tout de suite après la pause. Paul Arsenault sera notre invité. Je vous pose la question, est-ce que vous craignez désormais de voyager avec tout ce qu'on dit sur le coronavirus? On vient d'entendre Marie-Julie Gagnon, qui est une blogueuse voyage, qui est en Asie, qui semble plus inquiète quant à ce qu'on écrit, nous, ici, dans l'actualité, ce qu'on lit sur le coronavirus, que le fait d'être elle-même en Asie. Vous me dites comment vous voyez ça, 514-790-9850, et de l'extérieur de la grande région de Montréal, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Paul Arsenault est directeur du réseau de veille en tourisme. Bonjour, Paul. Qu'est-ce que vous
Bonjour,
pouvez
Isabelle.
Nous dire sur ce qui se passe en ce moment? Parce que les gens sont très inquiets. Déjà, nous, il y a une semaine, on avait un peu levé le drapeau rouge là-dessus. Il y avait des agents de voyage qui nous disaient, les gens commencent à annuler vraiment beaucoup les destinations, mais et pas que l'Asie, d'ailleurs.
C'est incroyable. Ça me dépasse un peu tout ça, Isabelle. Je suis peut-être à la fois optimiste et trop rationnel. Première des choses, si vous êtes pour mourir en voyage, ça va être d'un infarctus ou d'un accident de la route. Les statistiques sont là. Ça sera pas de la grippe ou de quelque virus que ce soit. Là, c'est très, très, très loin derrière. Cela dit, vous avez un point, c'est que le risque sanitaire est celui qui fait le plus peur aux gens. C'est-à-dire que s'il y a le risque d'une guerre, par exemple, on sait très bien à quel endroit, à quel moment, où est-ce que c'est dangereux ou ça ne l'est pas, on va remplacer. Dans le cas d'une maladie, hein, c'est insidieux, c'est un microbe, on le voit pas. Mais je lui disais tout à l'heure, je suis hypochondriaque, et je pense que ça relève beaucoup de l'insécurité des gens qui, au final, se disent, si je vais dans tel pays, je vais mourir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes pour mourir en voyage, c'est certainement pas du coronavirus. La docteure, tout à l'heure, Drouin, nous disait avec raison, si vous l'attrapez, si par miracle vous trouvez le moyen de l'attraper, c'est moins de 2% des gens pour qui ça sera létal. On est d'accord que le risque, il est purement théorique. Là où il y a un problème, si on veut accrocher les deux phénomènes ensemble, puis on l'avait connu avec le SRAS en 2003, quand tous les jours on parle d'une maladie, qu'on compte les gens qui sont infectés, on compte les gens qui meurent, et à tous les jours, on dit Toronto, Toronto, Toronto. Sans surprise, bien évidemment, les gens disent « je n'irai pas en vacances à Toronto ». Et effectivement, l'industrie touristique s'est effondrée à ce moment-là. Comme Marie-Julie le disait, les taux d'occupation avaient implosé. Les hôtels coupaient les prix, faisaient des surclassements et tout et tout. Ce qui était, au final, une très mauvaise stratégie. Parce qu'ils ont fait des cadeaux à des voyageurs qui n'en avaient pas besoin. C'était ceux qui choisissaient. Et finalement, donc, ça a été une mauvaise stratégie. Maintenant, la Chine, évidemment, participe un peu du même principe. On entend parler tous les jours du nombre de gens infectés et tout et tout. Si on regarde annuellement de quoi meurent les Chinois, ils sont 1,4 milliard, ben ils sont à peu près, je pense, 10 ou 12 millions à mourir chaque année de vieillesse. Donc, les chiffres de 100, 200, 1000, 2000 personnes qui seraient décédées d'un virus sont dans la... dans le grand espace des choses. Puis,
en même temps, Paul, il y a quand même des choses qui alertent un peu les voyageurs potentiels que nous sommes un peu tous. Là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, là, qui me disent, ben moi, j'allais partir à Rome. Il y a Lise qui me dit, mais là, c'est sûr que depuis lundi, je vérifie auprès des assurances, l'agence de voyage d'Air Canada. Là, moi, je voudrais me faire annuler. Personne ne veut rembourser. Rome, c'est pas dans les villes ciblées. En même temps, c'est dans le même pays que Venise, où on vient d'annuler le carnaval, ou qu'il y a d'autres villes en Italie qui sont carrément fermées. Donc là, les gens se disent, voyons, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos recours? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Mais je comprends. C'est-à-dire, si jamais il y avait un foyer qui était annoncé, oui, les assurances, oui, les compagnies aériennes vont permettre de le remplacer. Mais on est dans une drôle de situation, c'est-à-dire que je pense entre autres aux compagnies aériennes, où les villes, à la Biennale de Venise, sincèrement, est-ce qu'il y avait vraiment un risque? Non. S'il y avait eu des éclosions de 1 ou 2 ou 3 ou 4 cas, évidemment, les autorités seraient fait dire ben, « pourquoi vous avez tenu la Biennale de Venise et vous êtes des incompétents et tout et tout ». On a eu l'incident qui s'est passé la semaine dernière, bon, de la petite famille qui prenait un vol avec Transat.
Avec un bébé qui toussait.
Avec un bébé. Imaginons à l'inverse que Transat les aurait laissés partir. Ben, c'est sûr qu'en arrivant là-bas, il y aurait des passagers qui auraient dit « comment une compagnie aérienne a-t-elle été à ce point-là inconséquente de nous laisser avec... quelqu'un qui éternuait, c'est comment dire, coincé si vous le faites, coincé si vous le faites pas. Et il y a beaucoup de ça. Donc, et la planète est grande. Hein. L'an dernier, il y a eu 1,5 milliard de voyages internationaux qui ont été faits. Personne ne prendra pas de vacances cet été. Il va se terrer dans son sous-sol. S'il y a un danger en Italie, ben les gens vont aller en Espagne, vont aller au Portugal et tout et tout.
Mais est-ce que les gens veulent...
Oui.
Ben, j'allais vous demander, les gens veulent savoir, est-ce que je réserve un vol ou un voyage en Europe ou je voyage au Québec?
Moi, très sincèrement, puis j'écoute Marie-Julie, si je réserve un voyage en France, par exemple, et qu'effectivement les autorités de la France disent, ben, telle ou telle ville, il y aura une certaine forme de confinement, à ce moment-là, je vais être remboursé de toute manière et à ce moment-là, les assurances vont entrer en ligne de compte. Donc, je n'ai pas à risquer, entre guillemets, le risque financier est à peu près inexistant.
On va être remboursé par qui? Parce que là, si je me fie à Lise, là, qui essaie de se faire rembourser son vol vers Rome, elle devait partir hier. Elle dit « j'ai annulé » parce qu'il y avait trop d'incertitudes à l'entrée du pays. Mais j'aimerais savoir, là, pour la suite des choses, là, est-ce que je vais être remboursé?
C'est-à-dire... comment le dire gentiment, Lise a eu peur. Je respecte effectivement ce que je disais au début, le fait que les gens sont très sensibles et très craintifs, mais le fait que la ville ne soit pas, donc qu'il n'y ait pas de danger, fait en sorte qu'effectivement, les probabilités qu'elles ne seront pas remboursées parce qu'elle a pris de son propre chef la décision d'annuler un voyage.
Okay,
si je décide d'annuler un voyage, quelle que soit la raison, effectivement, les compagnies aériennes ne remboursent pas, puis les assurances non plus. La crainte n'est pas un motif suffisant d'annulation d'un billet d'avion. Si on regarde sur le site, on parlait tout à l'heure du gouvernement canadien, il y a rien qui dit qu'on ne peut pas aller à Rome actuellement, qu'il y a un danger, voilà. etc. Okay.
Donc, on vérifie la liste des endroits ciblés, c'est ça qu'on doit faire, Paul?
Exactement, exactement.
Et je voyais une pub de l'Office de la protection du consommateur cette semaine qui disait « votre vol est annulé, votre hôtel ferme ses portes, votre excursion finalement n'a pas lieu ». Vous êtes couvert automatiquement et gratuitement par la protection financière du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Il faut pour ça passer par une agence de voyage.
Oui, c'est ça. Mais encore là, ce programme-là existe dans le cas où il y a un défaut de la compagnie aérienne ou de l'hôtel de vous livrer la prestation. Si vous décidez de votre propre chef de dire « j'ai trop peur » alors qu'il n'y a pas de risque annoncé, là, l'Office de la protection du consommateur ne veut pas vous rembourser. Malheureusement, ça ne sera pas. Je le dis, si on revient à la question des agences de voyage, les agences de voyage en ligne, les Expedia de ce monde et tout, ont des permis d'agence de voyage du gouvernement du Québec, c'est une obligation. Et donc, vous êtes couverts s'il y avait un problème. C'est-à-dire, imaginons la chose suivante, on le voit par exemple, Air Canada a annulé beaucoup de vols vers la Chine. Si vous aviez acheté un billet puis que Air Canada et vos assurances refusent de vous rembourser, ce qui ne serait même pas le cas, vous auriez en plus cette troisième protection-là de l'Office de la protection du consommateur. Donc, à cet égard-là, le risque financier me semble à peu près inexistant, à l'exception de cette situation-là où on a dit que quelqu'un prend de son propre chef parce qu'il a peur la décision de ne pas y aller. C'est malheureusement une décision qui incombe à la personne.
D'accord. Mais donc, ce que vous nous dites, Paul, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'empêche de vivre notre vie, finalement. Là.
Et écoutez, vous rappelez combien de morts il y a eu du SRAS à Toronto, vous vous rappelez?
Ben, plusieurs dizaines, là, quand même. Là.
Mais, 43, oui.
Ouais, c'est ça.
À l'échelle de...
Non, mais on s'entend, là. On ne fera pas la discussion qu'on a eue avec la médecin tout à l'heure, mais on sait qu'il y a à peu près 4000 Canadiens en moyenne chaque année qui meurent de la grippe, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de risque
exactement,
zéro. Là,
exactement. Mais bon. Je ne veux pas diminuer, je ne veux pas ridiculiser non plus.
Mais vous nous avez bien expliqué tout ça. Merci, Paul. On doit absolument aller à la pause. Je sais que vous devez nous quitter. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Paul Arsenault est titulaire de la chaire de tourisme Transat, directeur du réseau de veille en tourisme. Après la pause, je vais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez des craintes encore avec tout ce qu'on vient de se dire sur le fait de voyager malgré le coronavirus? Dites-moi où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. 514-790-9850. Est-ce que vous participez à la paranoïa en ce qui touche le coronavirus? Martin, avez-vous peur de voyager, vous?
Écoute, bonjour Isabelle, moi j'arrive de Rio au Brésil. Je suis arrivé hier, je repars ce soir pour la Floride. Je m'en vais à Bangkok à la fin du mois de mars et je trouve que le monde est complètement viré sur le capot. Voyons, le pourcentage de chances de contracter le COVID-19, le coronavirus, dans un avion est probablement plus bas que de mourir dans un crash d'avion en ce moment.
Mais j'espère.
Je trouve que c'est complètement ridicule parce que le monde panique sur quelque chose. Si t'es jeune et en santé, j'ai 50 ans, je suis en santé, si je contractais le coronavirus, j'aurais une mauvaise grippe, puis ça finit là.
Ouais.
C'est sûr que si t'es plus vieux et pas en très bonne santé, ben là,
on garde
une gêne, mais sinon, moi, je continue ma vie, puis ça finit là.
Merci, Martin, et bon voyage. Alors, bonjour, Steve. Vous en êtes où, vous, dans vos projets de voyage?
Ah, moi, c'est pas le virus qui est épeurant en tant que tel, mais c'est tout ce qui vient avec.
Ouais.
C'est sûr qu'on peut mourir d'une crise cardiaque. Puis je comprends vos invités qui disent, ben voyons donc, empêchez-vous pas de vivre. Oui, c'est vrai. Mais regardez l'autre côté aussi. Ça vous tente-tu de vous ramasser en quarantaine là-bas dans un autre pays pendant 15 jours, 3 semaines, revenir au Canada, encore un autre 3 semaines, le trouble de réclamer vos frais de voyage? À qui ça tente de vivre ça? Personne. C'est ça qui fait peur. C'est pas le virus qui fait peur, mais tout ce qui vient avec.
Ouais.
Avez-vous déjà vu le président américain faire une conférence de presse pour une grippe?
Ouais.
Avez-vous déjà vu un pays mettre 300 millions de personnes en quarantaine à cause d'une grippe? Non.
Ouais. Et là, les marchés boursiers là, qui, depuis hier, là, chutent encore ce matin. Là, on parle d'une baisse de 4 % des bourses à peu près partout. Là. C'est certainement en réaction à tout ça. Mais il y a une espèce de panique qui influence un peu tout le monde. Merci, Steve. Je pense que Steve a mis le doigt sur quelque chose. Je pense que beaucoup parmi vous craignent ça, là, c'est-à-dire les effets du coronavirus, la quarantaine, le fait de ne pas pouvoir bouger si tu vas quelque part puis qu'on ne puisse pas te ramener. Laurent, vous en êtes où, vous, dans vos plans de voyage?
Ben, je suis heureux d'avoir entendu ce que le monsieur vient de dire. C'est exactement là où j'ai un problème. Moi, il me reste aujourd'hui pour annuler mon voyage.
Oh, vous alliez où, Laurent?
Au Mexique.
OK, ben le Mexique.
Même s'il n'y a pas de cas, c'est pas grave. Moi, ce qui me fatigue, c'est si jamais, mais moi, c'est pour la fin avril. C'est que si on se ramasse en quarantaine, on est dans le trouble.
Oui, mais bon.
Puis là, j'ai vérifié que les assurances. Mais vous savez, monsieur, il y a des risques de voyager.
Ah oui, c'est sûr, hein? Tout le monde s'en lave les mains.
Marquez
que s'il s'en lave les mains en ce moment, c'est une mesure d'hygiène, mais bon.
Ouais, non, mais.
J'essaie d'être comique pour vous, Laurent, là.
Puis j'écoutais, moi, j'ai 62 ans.
Oui.
Je suis plus d'une petite jeunesse.
Êtes-vous en forme quand même? Êtes-vous en bonne santé?
J'ai un petit peu de problème au niveau des poumons.
Ah, ben là, peut-être que ça devrait être ça qui vous guide. Je suis pas médecin, là, mais je veux juste vous dire, ça, ça peut peut-être être peut-être plus important. Mais écoutez, bonne décision. Merci de nous avoir appelés. Noémie, quelle est votre opinion par rapport à toute cette crise du coronavirus qui fait que les gens se posent beaucoup de questions par rapport au voyage, là?
Bien, moi, je dirais que je fais assez confiance aux autorités. Dans mon cas, je fais confiance à mon université. Je m'en vais pendant 2 mois au Vietnam en stage. Puis, vraiment, je suis très à l'écoute de ce que l'Université de Montréal dit par rapport à ça. Et cette semaine, on a reçu un communiqué pour nous dire que tout était beau, que rien n'était annulé du côté du Vietnam. Donc, moi, je leur fais confiance.
Bon, ben voilà. Ben écoutez, c'est une bonne façon de voir les choses. Merci, Noémie. Maxime, bonjour, Maxime. Votre opinion par rapport à tout ça?
Oui, bonjour. Opinion, écoutez, les deux derniers en ont parlé, les trois derniers, en fait, au niveau de la quarantaine. Ouais. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a moyen de savoir c'est quoi les conditions de quarantaine pour un hôtel ou pour un pays, dans le sens que je suis jeune, si je pogne le coronavirus, j'ai pas peur de ça, mais j'ai plus peur de me faire servir de la soupe à la pelouse pendant 4 semaines.
C'est comme c'est sûr.
Dans le fond, c'est sûr. Moyen de savoir d'appeler à quelque part au Canada ou là, dans mon cas, je vais en République dominicaine, est-ce que je peux le savoir? Qu'est-ce qu'ils vont me servir? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Non, pense pas. Je vous dis ça de même, là, mais je penserai pas. Remarquez, on va peut-être avoir plus de réponses la semaine prochaine. C'est pas un sujet qui risque de ternir. Merci beaucoup de vos interventions. On se reparle après les nouvelles.